Parce que c'est très long, c'est fastidieux, moi je le fais. Donc est-ce que vous allez mettre à disposition évidemment des USB pour que les gens puissent se consulter depuis chez eux tranquillement, pour pouvoir éventuellement apporter des compléments ou pas?
Ça, je demanderai au service de l'État, parce qu'en fait, c'est la mise à disposition n'est pas organisée par nous, elle est organisée par l'État. C'est la préfecture, en fait. Donc, il va y avoir d'ailleurs les dates, c'est pour ça que je suis contente de la chose, que j'ai reçu l'arrêté, mais c'est eux qui organisent la concertation. Donc, je leur demanderai comment on peut faire. Parce que c'est déjà, même les clés USB, on ne peut pas non plus distribuer comme ça. Quoi. Donc, il faut l'organiser. Mais je vais voir avec. J'insiste, c'est pas une concertation qui est organisée par nous. Je suis les directives dans ces cas-là.
Et puis une dernière question aussi.
Bertrand Décret, si le souhait du Conseil général du département, c'est d'exploiter la station entreprise en dehors de l'hiver, est-ce qu'il y a les autres infrastructures vont être exploitées comme la piscine ou le vélo, le descente, hors saison et week-end, comme on peut le voir au Gérer, à Boréal ou dans
d'autres. Alors, la réunion de travail qui est venue récemment avec Adrien Nové, Philippe Poteau, Sébastien Buisson, etc., on est réunion très récemment. Cette question de fond qui a été rigoureusement abordée, avec une obligation de trouver une réponse positive dans ce sens. On a pris l'exemple de la mise en place de passes rechargeables. Ces passes rechargeables permettant en effet à tout consommateur station de venir chez nous sur des zones qui doivent être définies en intersaison, bien sûr les vacances Toussaint et Pâques, avec des passes rechargeables pour faire en sorte que les uns les autres puisse être intéressé avec son pass pour aller faire soit de la luge, soit de la crevranche, soit des activités diverses, piscines ou autres, soit en effet du VTT. Et certains départements où on parle de la diversification, on a l'obligation de rentrer dans cette définition afin que la population locale, la population de vallée, puisse venir chez le cas. En effet, c'est totalement incohérent que la diversification se traduise par un outil qui soit ouvert, par exemple, tel que le golf, et que les autres soient en effet fermés. Et donc, le fait générateur de discussion, c'est la luge. La luge doit absolument fonctionner en intersaison. Si elle fonctionne en intersaison, on doit partir sur cette notion du pass. Et ce pass, c'est en effet le VTT, donc c'est la télécabine, c'est cette luge, c'est la piscine, etc. Donc, ils ont pour mission, on leur a confié, de nous donner une réponse sur de quelle manière ces fameux passes rechargeables avec des bornes adaptées à différents endroits, y compris des bornes de piscine, en disant je suis détenteur d'un pass, je prends ici la télécabine, que je vais en effet à la bouche, que je vais ici. Donc ils ont tous les trois cette mission pour avancer sur ce sujet.
Oui, oui. Une toute dernière question, parce que je pense que la soirée s'est terminée un petit peu. Simplement par rapport effectivement à un point qu'on n'a pas abordé, enfin me semble-t-il, dont je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. On a beaucoup parlé d'infrastructures ludiques, hein, de développement économique dans ce sens-là. Alors, il existe aussi, alors moi je m'en réfère au conseil départemental, hein, dans la revue, Pierre Monsieur Vauquier, qui écrit effectivement que l'installation des jeunes agriculteurs est un enjeu majeur pour soutenir l'installation de nouvelles générations, hein, voilà. Et en même temps, je passe à côté d'un lieu où, en stabulation, on trouve des chèvres, on fait du bio en stabulation, alors qu'on sait pertinemment que qu'est-ce qui attire aussi les touristes, pas seulement le golf, pas seulement... on sait aussi qu'il y a une sonorité, il y a des paysages, il y a un environnement. La montagne, c'est un imaginaire. Et quel imaginaire on crée en mettant des structures qui sont des structures qui ressemblent à un parc de loisirs et qui, quelque part, nous éloignent de ce qui pourrait être, et ce qui est recherché, semble-t-il, une véritable vie, un véritable village. On cherche à remplir l'école, on cherche à faire des choses comme ça. Ceci étant, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de construire un village qui est un village un village, allez, je ne veux pas dire un parc de loisirs, mais quasiment. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, dans notre réflexion, parce que ça ne se met pas en place d'un jour à l'autre, mais en tout cas, je pense que dans le cadre de PLU, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir réfléchir. Dans quelle mesure on peut imaginer que sur ces communaux, par exemple, pas d'autres lieux, on puisse avoir des animaux ou remettre en place un petit peu, faire en sorte que ces chèvres puissent être dehors, que des enfants puissent aller les voir, que des gens puissent se promener à côté et qu'on ressemble à un village de montagne.
Alors, c'est le problème, je ne vais pas demander des questions. C'est un débat, on parle de la question, c'est un débat, bien sûr. Quand tu parles, on parle d'attraction, l'image est un peu violente, car si tel était le cas, pourquoi les générations antérieures ont décidé de créer, en effet, la montagne avec des zones de ski? Ça commence par là. En deux mots, certaines collectivités ont fait le choix de ne pas du tout s'orienter vers. Il faut là aussi regarder l'histoire de la collectivité. À la base, l'ensemble des familles ici présentes ont décidé de faire de leur montagne une montagne économique, c'est sûr. Ça démarre comme ça. Ils ont aussi décidé d'en être propriétaires. Et ce sont, à la base, ce sont des privés.
Et ça bouge.
Non mais, à la base, revenons sur notre village. Là-bas, ce sont des privés, d'accord. La même collectivité a donné raison à un mécène boissonnard pour faire en sorte que Flaine, qui était un champ magnifique, devienne ce qui est devenu Flaine. Bon. Donc, aucun d'entre nous dans cette salle n'est à l'origine de cette orientation qui a été prise. À partir de cette orientation qui a été prise, cette orientation a entraîné obligatoirement une économie mentale. L'économie montagne, elle a entraîné systématiquement la venue d'une vie sociale et d'un développement social. C'est que vous, comme moi, en fait partie. Bon. Là aussi, toi, en tant qu'ancien instituteur, que tu étais ici, la vie sociale a entraîné la vie familiale, a entraîné l'apport d'enfants, a entraîné le regroupement des écoles, a entraîné la construction d'écoles, a entraîné l'obligation de l'éducation avec toutes les infrastructures que l'on connaît aujourd'hui, qui ont été nécessaires. C'est la conséquence d'un choix économique de faire en sorte que nos stations deviennent des stations de standard. Et conclusion. Ça, c'est la base.
Très bien.
Autour de ça, justement, mais parfois on accepte que c'est normal, on est dans la continuité.
On est dans la continuité, dans l'avenir.
Je continue. Dans l'avenir. Ensuite, nous avons à chacun des postes, et je sais que j'ai fait au total, je vais peut-être à la 5e. Nous avons abordé régulièrement le milieu environnemental, le milieu naturel et l'apport entre les deux zones agricoles afin de préserver l'environnement et de faire générer l'éventuelle possibilité de maintenir les agriculteurs sur place par les cadres. On n'a pas pour autant eu réponse à cela parce que, hormis le couple, la jeune femme Laetitia, que l'on peut encourager, qui a créé en fait cette chèvrerie, c'est la seule qui a lancé une économie de montagne nouvelle. L'ensemble des agriculteurs que nous avions sur place ont tous soit arrêté, soit parti, soit décidé d'orienter leur zone agricole vers une autre destinée. Et quand bien même la chambre d'agriculture, nous avons régulièrement préservé toutes ces zones agricoles. Dieu sait qu'on a, parce que là, on augmente les zones agricoles. On les augmente. Elles augmentent en fonction des hectares qui sont supprimés, repassent dans ces territoires. Et ce n'est pas pour autant que nous avons des candidats. Et nous n'avons pas de candidats, pourquoi? Parce que l'activité agricole de montagne ne fonctionne pas. Et que nous n'avons pas de candidats pour ça. On a essayé de fédérer au maximum des alpagistes. Les alpagistes, on les compte maintenant sur le niveau de l'un, parce qu'en effet, on en trouve plus beaucoup. L'agriculture a devenu une agriculture de montagne où, à la base, ici, on n'avait pas la structure telle que nous abordons avec une philosophie, avec énormément de fermes telles que nous demandons de le faire apparaître, et ensuite cette orientation de la transformation du fromage. Nous avons en fait une collectivité qui, à la base, a vu la majorité de ses habitants descendre en fait dans la vallée au profit de travailler dans le décotage et de ne pas pour autant utiliser l'agriculture. Donc on a fait un retard considérable et on n'a pas d'agriculteur. Compte tenu des configurations géographiques, délicates et difficiles, on n'arrive pas. Moi, ça fait 23 ans que j'ai le micro à la main, on n'arrive pas à trouver d'agriculteurs qui viennent s'implanter chez nous. On a eu, en effet, cette orientation prise par Laetitia Tasso en ce qui concerne la construction de cette chevrolet. Elle a eu, entre autres, des difficultés à faire accepter en effet son dossier au sein de notre collectivité. Ça n'a pas été simple, puisque son permis a été attaqué, etc. etc. Elle a eu cette orientation qu'elle a prise, mais qui est personnelle, en ce qui concerne ses chefs mis en stabilisation, avec une orientation opérationnelle. C'est un choix économique qu'elle fait, et non pas un choix environnemental. C'est un choix économique, elle. On ne peut pas composer, en fait, de lui dire les déchets à tel endroit et tel endroit. Bon. Après, la porte est ouverte à tout candidat. Nous avons un tel territoire agricole disponible qu'au contraire, si les cas candidats n'ont pas, nous le prenons. On avait beaucoup d'espoir quand Soirée était parti, on avait beaucoup d'espoir quand le neveu de François, en effet, commençait à venir chez nous. On s'est dit, bon, allez, on encourage, on va essayer de plus. Malheureusement, le neveu de François René est parti ailleurs, il n'est pas là. Et voilà, donc on est malheureusement face à un vide où l'économie agricole se traduit uniquement par des choix qui sont faits à tel ou tel endroit. Et voilà, voilà. Donc c'est pas un sujet facile. Et quand on est face quand on est en fait en discussion avec la Chambre d'agriculture, où en effet la Chambre d'agriculture en effet nous demande de réserver beaucoup d'espace agricole, on est entièrement favorable avec eux, on leur dit mais vous, Chambre d'agriculture, quelle est votre démarche pour faire en sorte que des exploitants agricoles viennent chez nous? Et là, on n'a pas de réponse parce que on est face à une profession qui s'oriente vers une industrialisation et que peu prennent aujourd'hui cette notion dite d'aventure d'être adapté dans une culture comme une autre pour faire de l'élevage ou autre parce que la rentabilité n'existe plus. Alors voilà, c'est le problème du fond, il est là. Et Dieu sait qu'on est face évidemment à ces situations. Alors malgré tout, on a beaucoup de terres agricoles qui sont ici. Donc si en effet on a des candidats, on est parfaitement couvert. Il est 9h15, on va arrêter ce soir. Un grand merci, pour toutes ces questions, pour ce débat très intéressant. Un grand merci pour votre attention. Mille excuses pour ces photos qui sont derrière moi et qui, avec ce soleil et cette réverbération, vont pas donner raison à une couleur pour mieux ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, donc on retient plusieurs dates. La première qui est celle de l'Assemblée Générale des Propriétaires. Le deuxième, la réunion publique que je vais essayer d'organiser ici avec le bureau d'études. Et puis une synthèse de l'ensemble de ces dossiers ici à la fin d'année avec l'enquête publique qui aura lieu au mois de janvier de l'année 2019. Un grand merci et surtout un grand merci à M. Bier d'avoir consacré beaucoup de temps. Merci bien.